Vous écoutez RTL. RTL.
Jusqu'à 22h.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Bonsoir à tous, on est ravis de vous accueillir. Ça va Thomas?
Mais oui, ça va bien. Je suis super content pour Julien Cellier. Ah, il a un petit bébé, c'est trop beau.
C'est bien les petits bébés. Vous avez profité du soleil aujourd'hui?
Non, j'ai travaillé beaucoup, donc mais je suis content d'être là.
Moi aussi, j'ai travaillé très près de ma fenêtre, comme ça j'ai un peu bronzé
qui,
la joue gauche.
Bon, bah, c'est bien. Alors bonjour aux curieux, on est ensemble jusqu'à 22h pour vous raconter des histoires extraordinaires comme celle de Benjamin. Raphaël et Nicolas, trois étudiants qui se sont lancés un défi complètement dingue, partir. Partir, faire le tour du monde sans un sou en poche, ont-ils réussi? Réponse tout à l'heure et puis nous vous donnerons aussi des nouvelles de Vladimir Poutine. Mais pourquoi a-t-il disparu pendant 10 jours? Après la Crimée, le président russe veut-il aussi annexer les Pays-Baltes? Bruit de bottes au cœur de l'Europe.
Et maintenant, rendons la voix aux esclaves.
Curiosité est un vilain défaut.
L'esclavage, c'est en quelque sorte l'institutionnalisation de la traite. Une espèce d'industrie de la chair humaine qui va se mettre en place pendant 2 siècles.
Jusqu'à 22h.
Bien sûr, des millions d'hommes sont partis vers l'Amérique. Et arrivés dans ce pays, il y a ce roseau maudit, la canne à sucre, qui se développe et pour lequel on a besoin de bras.
RTL.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
C'est une immersion inédite et poignante que l'on vous propose ce soir dans La Curiosité. Une immersion dans la vie quotidienne des esclaves français aux Antilles et à La Réunion au 19e siècle. Frédéric Gréjean, Bruno Maillard, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chercheur et historien spécialiste de l'esclavage et de l'histoire coloniale. Alors c'est vrai que cette voix des esclaves français, on l'a très peu entendue, on l'a même jamais entendue.
Alors très rarement effectivement, contrairement à ce que l'on voit pour les États-Unis ou les colonies britanniques où il y a eu des témoignages comme Mary Prince, comme Frederick Douglass, il n'y a pas d'autobiographie, de récit de vie d'esclaves
français aux Antilles. Pourquoi? Comment ça s'explique?
Alors on a deux processus d'abolition de l'esclavage qui sont différents. Aux États-Unis, ça se passe sur le sol américain, vous avez une partie, le nord, où l'esclavage est aboli dès les années 1780-1800, où vous avez un fort courant abolitionniste qui va justement se servir de ces récits d'esclaves pour, par la morale, notamment la morale chrétienne, convaincre que l'esclavage est immoral. Dans les colonies françaises, on a un processus qui est différent. Ce sont d'abord les philosophes des Lumières, les abolitionnistes de la Société des Amis des Noirs, qui eux ont plus un discours philosophique qui va très rapidement, au moment de la Révolution française, par notamment des révoltes d'esclaves, aboutir à une première abolition en 1794, puis rétablissement de l'esclavage en 1802 par Napoléon Bonaparte, et nouvelle révolution, 1848, et l'esclavage est aboli définitivement.
Bruno Maillard, si on n'a pas de témoignages, de récits de ces esclaves des Antilles et de la Réunion, c'est parce que les maîtres préféraient les maintenir dans l'illettrisme ?
Oui, alors ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans la plupart des sociétés coloniales esclavagistes, c'est-à-dire la volonté des maîtres de ne pas instruire leurs esclaves, d'autant dans les colonies moins françaises, puisque en principe, les codes noirs, je dis les codes noirs puisque c'est un ensemble de textes normatifs, il y a celui des Antilles, mars 1785, celui de la Réunion, et puis il y a un certain nombre de textes, précise que quand même, les maîtres doivent logiquement évangéliser leurs esclaves, chose qui ne font que très rarement. Donc pour un maître, effectivement, un esclave trop instruit, ça peut devenir un danger à un certain moment. D'ailleurs, les esclaves qui sont instruits, ce qu'on appelle les noirs talents, par exemple, ou les domestiques, on les met souvent un petit peu à côté du reste des esclaves qui travaillent, eux, on appelle les noirs de pioche ou les nègres de houe, qui travaillent dans les champs. Il y a une volonté très forte des maîtres, bien entendu, de ne pas instruire leurs esclaves.
Donc on a bien compris, pas de récit autobiographique des esclaves français des Antilles et de la Réunion, et pourtant, vous réussissez à raconter leur histoire. Vous êtes historien. Quelles recherches avez-vous dû mener pour réussir à nous raconter ce soir leur histoire?
Alors, ce que l'on a mené comme recherche, c'est dans les archives judiciaires, il y a des procès. Et dans ces procès, il y a des interrogatoires. Alors, deux types de procès, en gros. Premier type de procès, c'est un esclave qui a volé, éventuellement qui a tué, qui a brutalisé soit un autre esclave, soit quelqu'un de libre. Et cet esclave est interrogé. Et dans les interrogations qu'on lui pose, on lui demande la veille du vol, que faisiez-vous ? Et puis il nous raconte sa vie. Alors il peut nous dire, j'étais chez ma mère, ensuite je suis passé voir ma compagne, puis après j'ai rencontré deux esclaves, on a décidé de voler. Alors parfois ce sont des vols futiles, hein. C'est souvent des vols
du maïs,
de nourriture,
par exemple.
Voilà, du maïs, ça peut être aussi un vol de volaille, et donc voilà, l'esclave raconte.
Donc on a un peu de leur vie quotidienne qui s'écrit à travers les minutes de ces procès, c'est ça ?
Voilà, complètement. Donc ils témoignent de ce qu'ils vivent.
Mais est-ce que leur parole était libre dans ces procès ? Ou est-ce qu'ils ne pouvaient pas tout raconter et tout dire de leur histoire ?
Oui, en fait, il faut s'imaginer que dans les colonies mains françaises, on applique la même législation pénale qu'en métropole, et lorsqu'un esclave est soupçonné de la commission d'une infraction, s'il n'est pas jugé par son maître directement, il peut être jugé devant un tribunal de droit commun. Et lors de ces instructions, les esclaves, qu'ils soient présumés coupables ou témoins, sont interrogés par ce qu'on appelait à l'époque le lieutenant du juge, puis un jugement d'instruction. Et généralement, les interrogatoires commencent toujours de la même façon. Alors, on demande à l'esclave son prénom, sa date de naissance, son âge quand il le sait, son origine, le nom de son maître. Il répond, puis la seconde question, c'est qu'avez-vous fait ce jour-là ? Et c'est cette source, nous, qui nous a particulièrement intéressés, puisqu'il raconte le quotidien de sa journée, un quotidien qu'on ignorait un peu, et qui ont ouvert effectivement des perspectives assez intéressantes dans le livre, puisqu'on voit qu'au fond, l'habitation, ça n'est pas un camp de concentration, hein. L'esclavage, c'est la violence, certes, mais il y a des formes de liberté, entre guillemets, sur ces habitations qui permettent de construire ce qu'on appelle, nous, ce monde parallèle des esclaves.
Pendant ces procès, ce sont des esclaves qui parlent libre et sans faire, c'est une expression consacrée, vous nous la décrypterez dans un instant. Jean-Baptiste, Noël, Lucille, mais aussi Lindor, Cécilia, ils sont cafres, noirs de pioche, ils ont été esclaves dans les colonies françaises, et pour ne pas les oublier, on raconte leur histoire, on leur restitue une voix.
Vous écoutez RTL.
RTL, première radio de France.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Verdi, le cœur des esclaves, pour nous accompagner ce soir sur RTL dans la curiosité, parce qu'on vous raconte le quotidien de ces esclaves français du 19e siècle aux Antilles et à La Réunion, avec deux historiens et chercheurs, Frédéric Régent et Bruno Maillard. Les seuls moments où ces esclaves étaient entre guillemets libres, c'était devant les tribunaux. Quel paradoxe, parce qu'ils pouvaient s'exprimer libres et sans faire. C'était l'expression consacrée, c'est aussi le titre de votre livre publié chez Fayard. Qui prononçait cette expression ?
Alors, c'est une expression qui, depuis 1670, est employée pour toute personne qui comparaît devant un tribunal. Alors, c'était valable dans le royaume de France, pour tous les sujets du roi de France, et c'est aussi valable pour les esclaves. D'où cette expression, déférer devant un tribunal, parce que cette ordonnance de 1670 s'explique pour que la personne qui comparaît devant un tribunal n'ait pas en quelque sorte un instrument de torture devant le tribunal que peuvent être les fers.
Donc on leur enlevait les fers, c'est ça ?
Voilà, on leur enlevait les fers, on les déférait, voilà.
Alors dans votre livre, on entend la voix des esclaves. Qui sont-ils ? D'où viennent-ils ?
Eh bien en fait, la plupart des esclaves quand même qu'on retrouve dans ces procès, ce sont ce qu'on appelle alors aux Antilles des nègres de houx, ou sur la Réunion des noirs de pioche. Pourquoi ? Parce que grosso modo, 60% des esclaves dans ces trois îles travaillent sur les habitations, travaillent dans des champs de canne surtout. Il y a un peu de café et d'indigo. Et ce sont surtout ces paroles. Mais on retrouve quand même parfois aussi d'autres esclaves, des domestiques. On peut trouver ce qu'on appelle des noirs talents, c'est-à-dire des esclaves qui ont eu une petite formation. Ça peut être de charpentier, de cuisinier, etc. Et parfois, on trouve
des
aussi...
Des noirs talents.
Oui, on les appelait... Alors, sur la Réunion, on les appelait comme ça, parce qu'ils avaient eu une formation, un talent, hein, grosso modo. Mais on trouve parfois, c'est important aussi, des esclaves qui vivent dans les villes. Car il y a des esclaves dans les villes, même s'ils sont moins importants. Et eux exercent exclusivement, eh bien, auprès de commerçants ou d'artisans. Généralement, ce sont des noirs talents ou dans les ports. Il y a des esclaves qui sont dockers. Et ce sont grosso modo ces esclaves que l'on retrouve dans ces procès.
Et comment devenaient-ils esclaves? Ils étaient achetés. Comment ça se passait?
Volés?
Il y avait des foires, si j'ose dire, des lieux où on pouvait acheter les esclaves.
Alors, il y a deux types d'esclaves. Il y a premièrement les esclaves qui sont introduits dans les colonies par le biais de la traite négrière, donc qui sont achetés sur les côtes africaines ou à Madagascar, notamment pour ceux de la Réunion, un peu aussi du sud de l'Inde. Pour la Réunion, il y a un certain nombre d'esclaves qui étaient achetés là. Et puis, deuxième manière de devenir esclave, bah ce sont les enfants de ces esclaves, car lorsque la mère est esclave, l'enfant est esclave aussi. Donc deux types d'esclaves, ceux qui sont nés en Afrique et puis ceux qui sont nés aux Antilles, à La Réunion, que l'on appelle les nègres créoles ou noirs créoles.
Alors vous parlez des familles, une mère, son fils. On a avec Sidonie en tête le film de Steve McQueen, 12 Years a Slave, avec l'une des scènes les plus déchirantes, c'est quand les familles sont explosées, séparées, les enfants d'un côté, le père de l'autre, la mère dans un troisième lieu. Ça existait aussi aux Antilles ou à La Réunion?
Oui, bien sûr. C'est une des caractéristiques de l'esclavage. C'est que les codes noirs précisent que, grosso modo, le maître ne peut pas vendre l'enfant tant qu'il est impubère. Alors, on définissait autour de 10, 11, 12 ans. Mm-hmm. Et à partir de cet âge-là, effectivement, il y a possibilité pour le maître de vendre son esclave. Alors, ces ventes vont avoir d'autant plus lieu pendant la période qu'on étudie qu'à partir de 1815, surtout 1817 en France, on va interdire la traite négrière. Alors même si c'est pas véritablement appliqué, il va y avoir une traite illégale assez importante à la Martinique, à la Guadeloupe et à la Réunion jusqu'aux années 1830. Mais le fait que la traite soit interdite, il va y avoir en fait un marché intérieur dans ces colonies où on va avoir effectivement des vendeurs, souvent de petits colons moins ruinés, qui ne peuvent pas garder des propriétés trop importantes et qui doivent se séparer de certains esclaves. Et il y a aussi le système de location des esclaves. Car ça, c'est un phénomène qu'on a retrouvé aussi dans cet ouvrage. C'est-à-dire qu'il y a, eh bien, parfois, selon les saisons, des maîtres qui ont un surplus moins d'esclaves et qui les louent à d'autres propriétaires qui ne peuvent pas moins les acheter, contre une somme. Donc, il y a un système de location qui peut se faire d'un maître à un autre et un système de vente, ça qui va perdurer jusqu'en 1848. On trouve ça dans les journaux d'époque, des ventes à l'encan où on voit tel propriétaire vendre 5-6 esclaves avec une description très précise de l'âge, de la taille, du physique, du sexe de l'esclave, car selon l'âge, le sexe, etc., le prix n'est pas le même.
Alors, vous avez commencé tout à l'heure à nous raconter ce que peut être, en quelque sorte, la vie quotidienne de ces esclaves aux Antilles et à la Réunion, grâce à des procès, aux minutes de ces procès auxquels vous avez eu accès. On va continuer de vous raconter cette histoire. Restez avec nous.
Vous écoutez RTL.
Bien qu'on t'a amené ici pour travailler, autrement ça te vaudra 100 coups de fouet.
Je sais ce que c'est que de faire l'objet des attentions du maire.
Jusqu'à 22h.
Je ne succomberai pas en désespoir. J'entretiendrai mes forces jusqu'à l'opportunité d'être libéré.
RTL.
J'étais un homme libre. Je ne suis pas un esclave.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Un très bel extrait du film de Steve McQueen, 12 Years a Slave. Et avec nos invités, on reconstitue le quotidien des esclaves, pas américains, mais français, qui ont vécu aux Antilles et à La Réunion au début du 19e siècle. Nous sommes avec Frédéric Grégeant et Bruno Maillard, chercheurs, historiens. Et tiens, on va vous raconter l'histoire de deux de ces esclaves, Jean-Baptiste pour commencer, et puis Lucille. Jean-Baptiste, il est commandeur d'une plantation à la Martinique. Commandeur, c'est quoi? C'est un esclave qui commande d'autres esclaves? Ça veut dire qu'il y a une hiérarchie entre les esclaves?
Oui, tout à fait. Donc, le commandeur, c'est celui qui tient le fouet sur la plantation. Donc, c'est un esclave. Et lorsque un maître souhaite faire punir les autres esclaves, il utilise le commandeur. Alors, le commandeur existe sur les plantations où il y a une centaine d'esclaves, enfin, de 30 à parfois même 500, 600 esclaves, il y a un commandeur.
Ça pouvait monter jusqu'à...
Nous avons des exemples de plantations où il y a plusieurs milliers d'esclaves. Voilà. Et sur les toutes petites exploitations, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez avoir un propriétaire qui possède un seul esclave seulement. Donc à partir de ce moment-là, il n'a pas un commandeur pour punir le seul esclave qu'il a.
Le commandeur, Jean-Baptiste, il est du côté du maître ou des esclaves ?
Alors, c'est ça l'ambiguïté, c'est-à-dire qu'il est esclave, mais il est choisi par son maître, par sa manière de pouvoir diriger les autres. Et là, dans l'exemple que nous donnons, Jean-Baptiste, à un moment, il est obligé de fouetter un autre esclave, et son maître lui dit « frappe plus fort », puis Jean-Baptiste dit « mais regardez, il saigne ». Et c'est lui-même qui va être frappé par son maître, parce qu'il n'a pas frappé assez fort un autre esclave. Alors, pour essayer de comprendre pourquoi voilà, des esclaves, son commandeur, tiennent le fouet. Ce qu'il faut savoir, et c'est le cas de Jean-Baptiste, c'est que les esclaves qui servent bien leur maître ont une possibilité de liberté, d'affranchissement. Et là, Jean-Baptiste, il a réuni une somme qui est suffisante pour qu'il puisse se racheter à son maître.
Et il va le faire ? Il va pouvoir se racheter à son maître ?
Eh bien, son maître l'en empêche. Alors, Jean-Baptiste était bien vu de son ancien maître, c'est-à-dire le père de son actuel maître quand il commence à avoir des problèmes. Et là, il était sur le point d'obtenir la liberté. Il avait la somme suffisante pour pouvoir se racheter. Et là, c'est le fils du maître qui prend la succession. Et lui, eh bien, au contraire, il va essayer de trouver cette somme pour s'emparer de cette somme et pour punir donc Jean-Baptiste.
On parle d'argent, ça veut dire que les esclaves pouvaient gagner de l'argent ?
Oui, alors en principe, je dirais non, puisque l'esclavage, c'est justement ce système qui fait que vous n'êtes plus sujet de droit, mais objet de propriété, et que votre maître peut vous exploiter à sa guise et gratuitement. Mais il s'avère que les esclaves, lorsqu'ils travaillent par exemple le dimanche pour leur maître, alors que c'est interdit, grosso modo, pour acheter, on va dire, la compétence de l'esclave, ou les obliger à travailler, eh bien, on peut les payer. Autre cas aussi, ce sont tous ces esclaves moins marrons, puisque le marron c'est ce phénomène dont ces esclaves qui quittent les habitations illégalement. Alors, dans un premier temps, le marronnage s'était caractérisé par ces esclaves qui allaient vraiment à l'intérieur moins des îles et qui étaient en rupture moins totale avec le système. Mais sur la fin, on constate plutôt un marronnage de proximité moins d'habitation ou un marronnage dans les villes. Et là, on a quelque chose d'hallucinant, mais qui prouve qu'en fait, cette société coloniale, elle est absolument pas homogène. C'est que vous avez des colons, des maîtres qui prennent sur leur habitation des esclaves moins marrons, qui appartiennent sans doute à de leurs voisins.
Donc ils se sont échappés d'une autre plantation,
complètement,
c'est ça ?
Complètement, et qui, sachant qu'ils ont une spécialité ou non, eh bien, vont les employer, voire les payer. Donc ça, c'est quelque chose et qui sera d'ailleurs moins légalisé, puisqu'il y a un train de loi sur la fin du régime, ce qu'on appelle la fameuse loi Maco de 1845, sous la monarchie de Juillet, qui va véritablement légaliser. Mais l'argent circule entre moins les esclaves. Et tout d'abord, la principale source de richesse, c'est ce qu'on appelle les ventes de produits sur le lopin de terre qu'on leur concède, que ce soit surtout aux Antilles, un peu moins à La Réunion, mais ce lopin existe, c'est-à-dire c'est une petite parcelle de terrain que le maître concède à l'esclave, et ses légumes, ses fruits ou ses animaux qu'ils élèvent, mais peuvent les revendre sur le marché moins local.
Mais rapidement, ils ont des droits ? Par exemple, je sais pas, est-ce qu'ils peuvent acheter une maison ? Est-ce qu'ils peuvent se marier ? Est-ce qu'il y a des droits pour les esclaves ?
Alors, en principe, l'esclave n'a pas de droits en tant que tel, mais son maître a des obligations vis-à-vis de lui. Alors, un exemple, sur le mariage, l'esclave ne peut se marier qu'avec le consentement de son maître. Mais il doit aussi consentir à se marier lui aussi. C'est-à-dire, un maître ne peut pas obliger... Enfin, là, on est encore dans le cadre de la théorie de la loi. Mmh. Un maître ne peut pas obliger deux esclaves à se marier. Mais il peut les empêcher de se marier, si les deux esclaves le souhaitent. Alors pourquoi ? Souvent, si les esclaves appartiennent à deux maîtres différents, ça créerait des difficultés de voir un esclave sans arrêt quitter la plantation pour aller dans une plantation plus lointaine. Et donc, les maîtres voient d'un mauvais œil les mariages entre deux esclaves de plantations différentes. Mais j'ajouterai une chose, vous avez des ordres religieux, par exemple les jésuites, les dominicains, qui possèdent des esclaves et qui eux sont ceux qui marient le plus leurs esclaves.
Et on va continuer de raconter l'histoire de ces esclaves français, notamment celle de Lucille, comme promis. Restez avec nous sur RTL.
Vous écoutez RTL.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnet.
Une vie d'esclave au 19e siècle dans les colonies françaises, c'est ce que l'on vous raconte ce soir dans La Curiosité avec deux spécialistes de l'esclavage et de l'histoire coloniale, Frédéric Réjean, Bruno Maillard. Vous donnez la parole à ces esclaves dont on a très peu connu l'existence. Tiens, on va parler de Lucille, c'est une femme, ça va nous permettre de parler du quotidien des femmes dans ces plantations. Lucille, elle soigne son maître, c'est ce que vous racontez dans votre livre « Libre et sans faire » chez Fayard. Ça veut dire quoi soigner son maître ?
C'est-à-dire que, et on est encore dans les paradoxes de la société coloniale esclavagiste, c'est que la relation maître-esclave fait que, on constate que de nombreux maîtres préfèrent souvent que ce soit leurs esclaves qui ont le titre en gros de guérisseurs, qui les soignent plutôt que de faire venir. Alors à cette époque, il y avait déjà très peu de médecins, mais il y avait ce qu'on appelait des chirurgiens. Donc il y avait une formation très courte, on va dire, et préfèrent souvent que ce soit leurs esclaves qui les soignent. D'ailleurs, beaucoup d'habitations, les grandes habitations, vous avez. D'ailleurs, c'est un héritage aussi aujourd'hui aux Antilles, à la Réunion, de l'usage humain de ces plantes. Donc un esclave qui pratique qui joue le rôle de guérisseur et qui est amené à soigner le reste des esclaves. Ou des maîtres. Et Lucie, effectivement, c'est une histoire intéressante puisqu'elle va être incarcérée pendant plus de 2 ans sur l'habitation, puisque les maîtres jouissent, on va dire, d'un pouvoir main domestique, c'est-à-dire dans certains cas, ils peuvent juger et condamner eux-mêmes ou leurs esclaves à des peines de faux ou de chaîne, mais surtout, on constate, à des peines de prison. C'est-à-dire, sur les grandes habitations, vous avez un petit espace qui est réservé, qu'on appelle... Bon, c'est une salle de police officiellement. Et Lucille va être enfermée pendant plus de 2 ans dans des conditions, comme vous pouvez imaginer, lamentables.
Mais pourquoi
De
quoi elle est accusée?
Alors, c'est une suite. Il faut s'imaginer que, comme c'est une punition main domestique, c'est une suite, sans doute, de comportements qui a déplu à son maître. C'est-à-dire, le maître exerce le pouvoir main domestique. C'est-à-dire, à la limite, il faut de bonnes raisons, mais ça peut être aussi une suite de comportements. L'affaire Lucie, là où elle est intéressante, c'est qu'elle va soulever un vrai débat. À l'époque, ce qu'on appelait la chambre des députés, puisque cette affaire Mahaudière, c'est le nom de son maître, va avoir un très grand impact. Il y a une revue en France qui s'appelle la Revue des Colonies.
Pourquoi? Parce qu'elle a été enfermée pendant 2 ans.
Oui, et surtout que le procès va être un procès d'éclat, puisque ce qui va jouer dans ce procès, c'est effectivement le fait que l'autorité judiciaire reconnaît les abus commis par le maître. Mais encore une fois, c'est toute l'ambiguïté du système. L'autorité judiciaire ne peut pas toujours sanctionner les maîtres. Sanctionner un maître qui sanctionne son esclave, c'est remettre en question le système colonial esclavagiste. Il n'empêche que cette affaire va amener un vrai débat et une loi, ou plutôt une ordonnance royale, qui va limiter l'incarcération des esclaves à 15 jours sur les habitations.
À la lecture de votre livre « Libre et sans faire », on est frappé par cette violence organisée, outillé, j'ai envie de dire ce mot, c'est-à-dire qu'il y a vraiment les outils de l'esclavage. Le premier, c'est le fouet, évidemment.
Oui, alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est pas une particularité des sociétés coloniales. Par exemple, dans la marine, les fers et le fouet sont... Le fouet est aboli dans la marine en 1848, la même année que l'abolition de l'esclavage. On est dans des peines qui sont des peines sous l'Ancien Régime, un blasphémateur, on lui troue la langue. Donc, par exemple, le fugitif, l'esclave fugitif auquel on coupe le jarret, vous voyez, on est dans des peines corporelles qui sont liées au délit qui est fait.
Couper le jarret, ça veut dire quoi? Couper les tendons derrière.
Couper le tendon d'Achille.
Voilà. D'accord.
Mais ce qu'il faut bien, par exemple, les galériens pouvaient aussi, tout comme les esclaves fugitifs, avoir les oreilles coupées.
Donc cette violence, elle était dans la société de l'époque.
Voilà, c'est pas une invention.
C'est-à-dire que c'était
presque
normal à l'époque, c'était accepté.
Accepté, oui. D'ailleurs, lorsqu'il y avait des exécutions publiques, mais la foule en masse se déplaçait pour voir des exécutions publiques. Et plus il y en avait, plus la foule était à la limite contente. Et d'ailleurs, au fil du temps, les exécutions publiques se sont faites de manière complètement cachée, parce que ça pouvait aussi provoquer des troubles. Alors, public, j'ai un exemple en Guadeloupe où... alors là, pour le coup, ce sont des soldats européens qui sont condamnés à mort pour une mutinerie. Et ça crée une véritable émeute. Donc voilà, nous sommes dans des sociétés qui sont extrêmement violentes.
Bruno Maillard, sur ce thème.
Oui, alors, de toute façon, effectivement, déjà entre le 18e siècle et le 19e, il y a un processus d'adoucissement des peines qu'on constate en métropole et que l'on constate aussi dans les colonies. Bon, le jarret coupé, les oreilles coupées pour les esclaves moins marrons, ça c'est le 18e siècle. Au 19e, c'est terminé. Hein. La plupart
donc
des...
c'est quoi, c'est le fouet ?
Non, alors généralement même c'est l'emprisonnement. Hein. C'est-à-dire les esclaves sont condamnés alors à des peines, en ce qu'on appelle des peines de chaîne, mais encore une fois, ça n'est qu'un nom théorique, ce sont des peines d'emprisonnement dans les geôles moins publics de l'État pour des courtes peines. Et généralement, la puissance publique là utilise ces esclaves qui sont incarcérés dans les geôles moins publics pour l'entretien des infrastructures moins publiques. On utilise les esclaves pour, par exemple, nettoyer les rues, reconstruire les routes, les ponts, etc. Ouais. Donc, il y a un adoucissement que l'on constate en France, comme dans les colonies, sur ces peines moins corporelles.
C'est vrai qu'en lisant Libré sans faire aux éditions Fayard, ce qui m'a frappé, c'est le nombre de tortures que les maîtres pouvaient inventer pour faire mal, pour détruire leurs esclaves. Alors, il y a les bâillons, le sabot, qu'est-ce que c'est ?
Alors, le bâillon, c'est une sorte de masque en fer qui est mis sur le visage de l'esclave. Donc, les sabots, c'est un anneau métallique qui est mis au pied de l'esclave auquel est associé une chaîne et puis un poids derrière.
On leur fait installer des fers aussi ?
Voilà, on leur fait installer des fers. Alors, encore une fois, ces procès sont des procès d'esclaves qui ont attaqué leur maître pour mauvais traitement. Ce sont des procès qui ont lieu à l'extrême fin de l'esclavage. Et là aussi, en tant qu'historien, il faut aussi avoir un certain recul par rapport à ça.
Parce que c'est
ce
pas
sont
le
les cas les plus extrêmes qui sont ici présentés devant la justice.
Le maître qui fait manger des matières fécales, par exemple, à son esclave, c'est une pratique, ça, au 19e siècle, aux Antilles, à La Réunion, ou c'est une exception ?
Alors, c'est toujours la difficulté. Effectivement, c'est des choses que l'on voit, que l'on a trouvées dans les documents. Maintenant, je ne peux pas vous répondre sur le fait que ce soit généralisé ou pas. Mais une chose que l'on peut dire, c'est que dans un système où finalement il n'y a pas de limite ou très peu de contrôle, eh bien, la perversité des individus peut s'exercer complètement. Mmh. Le maître le plus condamné dans toutes ces affaires-là, il est condamné à 2 ans de prison. Et dans sa condamnation, à la fin, ce qui est dit, c'est que finalement, il peut continuer à posséder des esclaves parce que c'est la première fois qu'il est condamné, il n'y a pas de récidive. Parce qu'il y a une des peines qui peut être mise en place, c'est interdire à un maître de posséder des esclaves.
Donc il y a des maîtres qui sont particulièrement sadiques. Est-ce qu'à l'inverse, j'ai un peu de mal à prononcer le terme, mais est-ce qu'il y avait des bons maîtres ?
Il y a des maîtres tout court. La relation maître-esclave, c'est cette relation, je dirais, aphilosophique. Être esclave, c'est être soumis à la totale autorité d'un autre homme. Bon, alors, je dirais moi plutôt que c'est un système banalisé dans les colonies et avec, on va dire, des hommes qui doivent exploiter d'autres hommes. Alors après, il y a une logique. Acheter un esclave, ça coûte cher. L'entretenir, ça coûte cher. Et l'objectif, c'est de l'exploiter au maximum. Il y a une logique économique très, très forte. Surtout pour ces colons qui possèdent de très grandes habitations où sont mis en place parfois des techniques, de production assez sophistiquées. On est dans une période au 19e siècle où on commence à acheter des machines à vapeur dans ces îles pour broyer moins la canne, pour fabriquer moins du sucre, et une organisation assez rationalisée parfois sur les plantations. Alors maintenant, Frédérica a raison, on est aussi dans un système où tout est possible, et effectivement, parfois, sur les habitations, le fouet sonne couramment, si un esclave va pas assez vite, il y a des sanctions assez dures lorsqu'il y a même un petit vol qui puisse être moins commis, sur les petits marrons, il y a des sanctions. Mais encore une fois, l'objectif quand même, pour un maître à peu près moins rationnel, c'est l'exploitation intensive de son esclave. C'est très difficile.
Parce qu'avec nos yeux d'aujourd'hui, on lit votre livre Libre et sans faire, on est révolté, on est dégoûté, on est écœuré, c'est un usage pour nous de la violence qui est incompréhensible. On a l'impression qu'il y a un goût, un plaisir de cette violence. On a du mal à l'appréhender.
Oui, alors, nous sommes dans un monde où il y a l'esclavage, et d'ailleurs, des esclaves qui sont affranchis, parce qu'il y a des esclaves qui deviennent libres, deviennent, pour certains d'entre eux, eux-mêmes propriétaires d'esclaves. Donc, c'est difficile à cette époque-là, pour les hommes qui y vivent, d'imaginer un monde sans esclavage. Ils sont baignés dans ce système et ils ont du mal à considérer que un autre élément, un autre monde est possible. Alors on a même un exemple, alors il n'est pas dans l'ouvrage, mais une personne qui est encore déjà esclave, qui a suffisamment d'épargne pour pouvoir devenir libre, mais comme son maître ne veut pas l'affranchir parce qu'il trouve que c'est un esclave qui le sert bien. Alors c'est aussi un peu le cas de Lucille que l'on évoquait tout à l'heure, parce que vous parliez de, elle est soignée, les bons soins qu'elle donne à son maître sont aussi des,
de l'affection,
c'est aussi
du sexe.
De l'affection, voilà. Du sexe, et on voit, c'est très compliqué, parce que vous avez, pour répondre encore à nouveau à cette question, des bons maîtres dans un testament pour un maître qui a franchi un esclave. Et puis, et le même, vous le retrouvez dans un procès pour mauvais traitement, pour d'autres esclaves. C'est une société très compliquée.
Libre et sans faire, Frédéric Réjean, Gilda Gonfier, Bruno Maillard, c'est aux éditions Fayard.
Vous écoutez RTL.